IDFM Radio, le média valdoisien. Et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être à notre écoute dans ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Aujourd'hui, mardi 5 mars 2024, infertilité et intelligence émotionnelle seront les thèmes de l'émission. À travers des témoignages puissants, je vous emmène ce matin à la rencontre de mes trois invités. Bonjour Caroline Vigoureux. Bonjour. Et Julie Fichera. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence sur IDFM Radio. Caroline, journaliste politique à la Tribune, et vous, Julie Fichera, directrice du Théâtre du Cormier à Cormeil-en-Parisis, l'une et l'autre co-auteur de « Tout s'est bien passé, merci », un livre paru aux éditions Fayard, l'histoire d'un combat de deux femmes qui veulent être mères, un concentré d'émotions que nous allons découvrir dans quelques instants. À vos côtés, Agnès Forster. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir dans mon émission.
Merci.
Fondatrice du cabinet Agnès Coach, alors Agnès avec un Y. Vous êtes coach consultante et coach professionnelle, certifiée RNCP, praticienne PNL. Votre sphère, gestion des émotions, du stress, du temps. Vous nous dévoilerez votre activité et son approche prometteuse dans de nombreux domaines. Bienvenue et merci pour votre présence à l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission que vous pourrez retrouver dans son intégralité en podcast sur le site de la radio idfm.fr. Et tout de suite, je m'adresse à vous, Caroline Vigoureux et Julie Fichera. Ça n'a pas été simple de nous rencontrer, mais notre opiniâtreté réciproque a surmonté les aléas des imprévus. Alors, avant de parler de ce livre, Tout s'est bien passé, merci, écrit avec beaucoup de sensibilité, je vous laisse peut-être vous présenter chacune votre tour. Caroline Vigoureux.
Moi j'ai 37 ans et comme vous le disiez, je suis journaliste pour un hebdomadaire qui s'appelle La Tribune Dimanche.
Voilà. D'accord.
Et donc je suis co-auteur avec Julie, mon amie d'enfance, du livre « Tout s'est bien passé, merci » que nous avons publié chez Fayard en mai dernier, qui est un récit croisé sur l'infertilité et sur le parcours qu'on a chacune eu pour devenir mère.
Oui, on verra que c'est pas que sur l'infertilité, hein, quand même.
Oui, c'est plus large. Sur la maternité.
Oui, c'est là. Oui, ouais. Mais aussi, c'est une histoire d'amitié aussi beaucoup. Aussi. Hein, ça, c'est important. Julie Fichera, je vous laisse vous présenter.
Oui, bonjour. Donc moi, c'est Julie. J'ai 37 ans. Donc comme vous l'avez dit aussi, je suis directrice du Théâtre du Cormier à Cormeil-en-Parisis dans le 95. Et donc amie d'enfance de Caroline, avec qui nous avons écrit ce livre.
Très bien. Alors Caroline, si vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage, je crois que vous avez écrit d'autres...
J'ai écrit dans un tout autre style, oui. Une biographie de Christiane Taubira à l'époque où elle avait porté le mariage pour tous lorsqu'elle était ministre de la Justice sous François Hollande. Donc c'était un livre politique. Et là, cette fois, c'est un livre beaucoup plus intime.
Bien
donc,
sûr.
C'est un exercice vraiment très différent.
Très différent, oui. Donc c'est donc un livre différent des précédents parce que il est autobiographique déjà. Et puis avec, pour point de départ, une formidable amitié entre vous et Julie.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, donc avec Julie, on est amies depuis qu'on a 5 ans. On s'est rencontrés en grande section de maternelle à l'école Sainte-Thérèse dans le Guin-les-Bains. Et on a toutes les deux grandi à Enghien. Et en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est que Julie a appris assez jeune qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et donc, l'idée est venue au fur et à mesure des années où moi, je me sentais assez impuissante par rapport à elle. Et je lui avais dit, bah, si tu fais cette GPA aux États-Unis, puisque c'était l'idée qui se présentait à elle, là, ce que je pourrais faire pour t'aider, ça sera de raconter ton histoire, mm-hmm. puisque étant journaliste, la seule chose que je sais faire, entre guillemets, c'est écrire. Donc, ma manière à moi de l'aider, c'était celle-ci.
Ouais, c'est ça.
Et il se trouve que j'ai rencontré Isabelle Saporta chez Fayard, qui aujourd'hui est directrice générale de Fayard. Et je lui ai raconté donc l'histoire incroyable de Julie, que je trouvais très belle. Et le hasard de la vie a fait que les grossesses ont eu lieu de manière simultanée. Et quand Julie avait eu recours à une GPA aux États-Unis, moi, avec mon mari, on avait eu recours à une PMA en France, ce qui était beaucoup plus classique. Et donc, je me suis mise à raconter ça à l'éditrice. Et il y avait des parallélismes dans nos histoires assez forts qu'on raconte dans le livre. Et elle m'a dit, bah, ce que tu me racontes est une histoire d'amitié, d'infertilité et de maternité. Il faut que vous fassiez un récit croisé de vos histoires. Donc moi, à la base, mon projet n'était pas du tout de raconter ma vie à moi. Donc j'ai beaucoup hésité. Évidemment, j'en ai tout de suite parlé à Julie, qui, elle, m'a beaucoup encouragée à le faire, parce qu'on s'est dit que ça élargissait aussi le sujet au-delà de la seule GPA, qui est
bien sûr
quelque chose d'encore très clivant en France, et que ça racontait d'abord une histoire d'infertilité. C'était d'abord ça, l'histoire de Julie. C'était pas seulement une histoire de GPA. Et donc, en racontant nos deux histoires, on l'élargissait au sujet très présent dans notre société, qui nous paraissait pourtant sous-traité et encore tabou, qui est celui de l'infertilité.
C'est clair. Oui, je parle d'une sorte de serment que l'une et l'autre avaient tenu. Et donc, j'allais vous poser la question de savoir si, puisque bon, c'est vrai que c'est un livre sur votre infertilité à toutes les deux, mais bien que ce ne soit pas tout à fait exact pour vous, Julie, Caroline, on y reviendra. Ouais. Et alors, j'allais vous demander si vous aviez ou non hésité avant de décider d'écrire ce témoignage, notamment pour vous, Julie, parce que c'est quand même une incursion dans l'intime. Mm-hmm. Et est-ce que ça vous a pas fait réfléchir à deux fois avant de d'écrire ce témoignage?
Non, en fait, ça me semblait important de mettre des mots sur des histoires finalement qui concernent tout le monde, et de raconter que la maternité, la parentalité, ça se construit. Et c'est pas une envie soudaine qui arrive. Et donc, et ce qui me semblait important, c'est qu'on a tendance à mettre sur un piédestal la parentalité. On a l'impression que c'est simple, et on voit souvent que la partie émergée de l'iceberg, et que en fait, beaucoup de gens, ça concerne beaucoup de monde, les difficultés qu'on peut rencontrer pour être parent. Et en fait, on s'est rendu compte avec Caroline que peut-être notre pudeur, notre timidité faisait que on alimentait nous-mêmes un tabou sur ce sujet-là, et qu'il était temps aussi d'en parler, et que si on voulait agir, bah, il fallait aussi qu'on soit actrice de ça.
Très bien. Donc, tout s'est bien passé, merci. Un titre, en fait, ironique, tant votre parcours raconte combien il est difficile de faire un bébé, c'est ce que vous venez de nous dire. Je vous propose qu'on marque une première pause, et puis après, on rentre dans le vif du sujet. À tout de suite.
Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar, si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer, on se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps, on se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant, on se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, 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 je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné, je ne suis qu'un fou. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé.
peur, aie confiance en moi. Je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps. On se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou.
Direct sur IDFM Radio. Et ce matin, je reçois Caroline Vigoureux et Julie Fichera, co-auteurs du livre « Tout s'est bien passé, merci » aux éditions Fayard, et Agnès Forster, coach consultante et coach professionnelle certifiée. Alors, je ne sais pas s'il faut le dire.
Oui, non,
ce n'est pas utile.
Dire
voilà.
Tout ça, non.
Donc, coach consultante et coach professionnelle. Merci Agnès. Donc, Caroline Vigoureux et Julie Fichera, quand on parle d'infertilité, on parle souvent de chiffres et de statistiques. Et vous, vous avez voulu mettre des mots derrière la douleur, les sentiments extrêmement ambivalents qui peut y avoir derrière.
Oui, l'idée, c'était de livrer des témoignages assez bruts et sans tabou aucun autour de tout ce qu'on a pu ressentir entre le moment où on a éprouvé le désir d'avoir un enfant et le moment où on l'a eu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu honteuses, un peu inavouables dans ces moments-là. Enfin, je prends un exemple qu'on a toutes les deux vécu, qui est celui de voir toutes ses amies tomber enceintes les unes après les autres. Et quand nous, on essaye d'avoir un enfant et qu'on se demande pourquoi les autres y arrivent quand moi, j'y arrive pas. Et forcément, ça suscite de la jalousie. On s'en veut de ressentir un sentiment pareil. Enfin, voilà. L'idée, c'était de livrer nos émotions telles quelles pour humaniser un peu le sujet de l'infertilité qui, n'est pas que des statistiques. On en parle beaucoup dans la presse avec beaucoup de chiffres et c'est effectivement important. Mais nous, on voulait raconter les choses à travers nos émotions plutôt qu'à travers les chiffres.
J'avais relevé ce passage quand vous parlez de ces femmes qui sont enceintes, toutes ces femmes. Et c'est vrai que il y a des moments comme ça, on voit que ça, on voit que des femmes enceintes. Donc j'imagine que quand on est comme ça dans ce désir d'enfant, ça doit être douloureux probablement.
Oui, effectivement.
Julie Fichera.
C'est-à-dire que on voit les autres avancer vers ce qu'on a envie. et que c'est pas facile tous les jours. C'est des sentiments partagés entre le bonheur pour nos amis, évidemment, et puis en même temps une envie que ça nous arrive, aussi.
Bien sûr. Alors, donc, c'est un livre « Tout s'est bien passé, merci ». C'est un livre qui parle de PMA et de GPA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée et GPA, gestation pour autrui, et apporte quand même des réflexions profondes et un autre regard par rapport à des idées reçues, notamment sur la GPA. C'est vrai que quand moi j'ai terminé ce livre, j'avais tout à fait un autre sentiment sur la GPA, qui est quand même très, qui n'est pas encore approuvée, on peut le dire. Hein.
Oui, complètement. L'idée de ce livre, c'était de surtout pas en faire un livre politique, et c'était de raconter derrière ces trois lettres ce qu'il peut y avoir dans le quotidien de personnes, et de montrer que on choisit pas la GPA par envie ou par plaisir, qui au départ c'est une envie de maternité, une envie de parentalité, c'est un projet qui se construit à deux. Et l'idée, c'était de montrer que au départ, il y a une histoire d'infertilité et que la GPA, c'est pas seulement l'utilisation corps c'est pas que ça.
Complètement.
C'est une rencontre entre des personnes à un moment de leur vie qui ont des envies communes et les chemins se croisent et se rencontrent et ça se passe bien.
Alors, c'est un livre aussi qui fait du bien et puis je pense qu'il va être très utile pour les couples infertiles et même les enfants conçus par ces méthodes pour leur prouver que vous les aimez très fort. Hein, je crois que c'est évident. Un livre qui apporte des clés parce qu'il y a des réponses sur ces deux parcours. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui sonne aussi comme un guide précieux pour tous ces parents qui ont un désir d'enfant parce que vraiment, vous donnez, quand vous créez ce... Alors, j'avance un peu dans le livre, mais on pourra revenir. Quand vous créez ce... Vous comprenez qu'il y a un groupe, enfin, que vous communiquez avec d'autres parents pour vous donner les tuyaux sur telle et telle méthode. J'ai trouvé ça super.
Oui, effectivement, je pense que ça me concerne. Oui. En fait, nous, Rose est née pendant la pandémie, et donc il y a eu un moment donné où les frontières est fermée, elle est née aux États-Unis, il fallait qu'on aille la chercher. Et évidemment, en fait, il y a des forums de discussion et d'échanges sur des gens qui étaient dans la même situation, et donc ensemble, tout le monde cherchait des solutions, tout le monde se donnait. Moi, j'ai eu l'info il y a pas longtemps. Il faut écrire à l'ambassade, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est aussi une histoire d'entraide et de solidarité entre des parents, entre des familles infertiles.
Vous, Caroline, vous avez donc racontez-nous un petit peu justement votre parcours de maman, puisque au départ, vous ne pensiez pas être infertile.
Oui, en fait, moi, ce qui s'est passé, je ne pensais pas le raconter dans le livre, mais... quand j'avais 21 ans, j'ai dû faire une interruption volontaire de grossesse, comme c'est le cas d'une femme sur trois, donc rien de plus banal, classique en tout cas. Et il se trouve que ce moment-là de ma vie m'a particulièrement marquée parce que j'avais dépassé les délais légaux en France et j'ai dû aller en Angleterre. Et c'est quelque chose qui m'a, je pense, plutôt traumatisée. Et j'en ai plus jamais reparlé à qui que ce soit pendant une bonne dizaine d'années. Mais en fait, j'avais acquis... Parce que j'avais pris la pilule du lendemain qui n'avait pas fonctionné. Bref, il y avait tout un tas de choses. Je m'étais pourtant protégée, mais rien n'avait fonctionné. Et du coup, j'en avais acquis la conviction que j'étais ultra fertile.
D'accord.
Et du coup, j'ai grandi de mes 20 à mes 30 ans avec l'idée que le jour où je voudrais avoir un enfant, ça serait simple.
C'était facile.
J'avais au contraire, moi, pendant 10 ans, la peur bleue de tomber enceinte.
Je comprends.
Donc, je prenais la pilule avec une rigueur de métronome et je me disais, le moindre oubli peut m'être fatal. Et le jour où j'ai tout fait pour être enceinte, ça ne fonctionnait pas. Donc, en fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Et je pense que ça a expliqué le fait que j'ai très mal vécu le fait que, enfin, cette attente, en fait, qui n'a pas duré très longtemps en soi, hein, on a essayé pendant 12 mois, mais ça a été 12 mois où chaque mois, je me demandais pourquoi ça n'arrivait pas quand je le souhaitais, alors que quand je le souhaitais pas, c'était arrivé. Et donc, c'est devenu un sujet d'angoisse assez obsessionnel.
Et obsédant, ouais, ouais.
Alors que mon mari ne le vivait pas du tout comme ça, et tant mieux. Pour lui, c'était normal. Et du coup, on avait convenu qu'on attendrait 10 mois avant d'aller faire des tests d'infertilité. Parce que moi, j'étais convaincue qu'il y avait un problème. Mmh. Je me suis dit, mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, on a fait ces tests qui ont révélé... un problème du côté de mon mari qui était un petit problème, à savoir un problème de mobilité des spermatozoïdes. Et donc, le gynécologue qui me suivait à l'époque nous a proposé de rentrer dans un parcours de procréation médicalement assistée. Et nous, ça a été médicalement assez peu lourd, où en fait, on a fait ce qu'on appelle une insémination artificielle. Mmh. Donc, c'est avant la FIV, on ne parle même pas de FIV. C'est simplement un dépôt de sperme.
Oui, c'est ça, c'est une opération technique, on va dire.
Oui, mais c'est vraiment, ça prend 10 minutes chez le gynécologue. Il y a un recueil de sperme en laboratoire. Il trie les spermatozoïdes pour prendre les meilleurs d'entre eux. Et voilà, et donc ça s'est fait de... Enfin, médicalement, c'était pas un protocole...
trop lourd.
J'ai quand même fait de la stimulation ovarienne, donc c'est des piqûres chaque jour dans le ventre pendant 15 jours, mais ça, toute femme qui passe par un parcours PMA doit faire ça. Voilà, mais pour moi, c'était pas grand-chose de faire ça, dans le sens où ce qui avait été le plus douloureux, c'était de ne pas comprendre et de ne pas savoir. À partir du moment où on m'a dit... On a identifié le problème, on a une solution. Bah, au moins, j'avais l'impression d'avancer, ça m'a soulagée. Et on a eu la chance que ça fonctionne du premier coup.
Oui, voilà. Vous le racontez très bien, ça. Là, ça fait partie des moments pleins d'émotions.
Oui, on a attendu après l'insémination, les 14 jours. Et puis moi, je voulais pas regarder ce test parce que ça m'angoissait trop. Donc, c'est mon mari qui l'a fait. Et qui m'a dit, y a bien deux petites lignes bleues. Et j'avais beaucoup de mal à y croire. Donc, j'ai été faire deux prises de sang pour être vraiment sûre que c'était bien.
Que ça marchait bien.
Et donc, j'étais enceinte. Et puis, la suite, peut-être qu'on va...
On va l'aborder. Agnès, je voulais vous demander, vous rencontrez dans votre activité, est-ce que vous rencontrez des mères comme ça qui ont besoin d'être rassurée quand si elles font une PMA.
Alors, j'ai pas eu la chance de rencontrer sur ce sujet-là, effectivement, de la PMA. Mais oui, les mamans qui ont besoin d'être rassurées. Moi, je travaille beaucoup sur la charge mentale des mamans, des mères, des femmes entrepreneurs, etc.
D'accord.
Donc, oui, le besoin d'être rassurée, il est là. Mais non, j'ai pas eu cette occasion-là.
Mais enfin, voilà, peut-être.
Mais j'entends bien, effectivement, tout ce parcours et la difficulté, c'est vrai que j'ai noté dans ce que vous disiez le côté de la honte inavouée, etc. Et c'est terrible, quoi. C'est vrai qu'on se met une pression et la société nous met une pression qui est terrible parce qu'effectivement, ce sont des sujets tabous. Je suis maman de 3 enfants. Ouais. J'ai eu la chance de ne pas avoir trop de problèmes pour avoir ces enfants. Et de la même façon, finalement, on a cette habitude de vivre dans son propre environnement. Et de pas tellement s'inquiéter de ce qui se passe autour.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on est dans sa bulle.
Et pourtant, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'en ai beaucoup plus de lucidité aujourd'hui que je ne l'avais peut-être à l'époque aussi. C'est extrêmement intéressant et important de connaître, de savoir.
Oui, c'est en ça où je trouve que ce livre est vraiment, je pense, un témoignage et que beaucoup, beaucoup de parents qui sont en désir d'enfant devraient le lire parce qu'il apporte vraiment des réponses. Et puis, je trouve qu'on se sent bien après. Ça vous donnait vraiment un espoir, hein, à tous ses parents.
C'est pour ça aussi qu'on a voulu en parler, pour rebondir sur ce que vous disiez. En fait, tout ça est parfaitement invisible dans le quotidien des couples, des femmes. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et nous encore, avec Julie, on a eu la chance d'avoir une finalité heureuse. Mais pour les gens qui n'arrivent jamais à avoir d'enfants, c'est un drame invisible.
Absolument.
Et on est en deuil. Sauf que personne n'est mort autour de nous, enfin, et donc personne ne sait que ces gens-là sont dans le deuil de ne jamais avoir d'enfant, qui est un deuil terrible à faire, et on a eu la chance de pas avoir à connaître ça, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler, parce que ça ne se voit pas, tout ce qui se voit dans le sujet des enfants, c'est la joie, c'est le bonheur, et tant mieux, parce que il faut le partager, mais c'est évidemment pas que ça, de devenir mère, en tout cas pas pour tout le monde.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a vraiment une notion de culpabilité que je travaille beaucoup là-dessus, et c'est un sujet que j'ai beaucoup approfondi dans mon travail de recherche pour pouvoir accompagner au mieux les personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que cette notion de culpabilité, elle est terrible, parce qu'elle est silencieuse. La culpabilité, elle est silencieuse, et on n'a pas été éduqué à entendre nos émotions, à les écouter et à les accepter aussi, de façon très très légère,
bien sûr.
On ne va pas creuser le sujet, on les cache, on les endort, et finalement c'est tellement dommage. Et c'est vrai que je pense que la grande force que vous avez toutes les deux, c'est d'avoir eu la solidarité entre vous deux.
Ah oui, ça je crois.
De ce parcours parallèle et commun, même si c'est, voilà, parallèle évidemment, parce que c'est pas les mêmes histoires, mais effectivement de pouvoir partager ça, c'est extraordinaire, et c'est super de l'avoir finalisé par écrit, quoi.
Bah merci, mais sur la culpabilité, je trouvais ça. Sur la culpabilité, c'était une grande question pour Julie, qui avait une culpabilité par rapport à la femme qui a porté son enfant, et qui elle-même se questionnait beaucoup sur l'idée d'écrire ce livre et de ce qu'allaient en penser les gens. Enfin, c'était quelque chose d'assez fort chez toi.
Oui, je me permets juste de rajouter quelque chose sur comment c'est invisible dans le quotidien, et comment en fait on jongle tout entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et l'impact que ça a sur ces deux pendants. Et c'est vrai que ça devient une obsession, et en fait on est concentré que sur ça, et on joue avec le planning professionnel pour trouver des rendez-vous médicaux. Sur la vie personnelle, ça devient un sujet, le sujet, et qu'en fait tout ça, effectivement, ça ne se voit pas, et si on n'en parle pas, en fait on a l'impression qu'on vit notre vie.
Oui, c'est ça, que tout va bien, voilà, c'est oui, comme souvent certains traumatismes dont on ne peut pas parler, et on ne devine pas derrière la personne toute la lourdeur qu'elle peut supporter. Oui, Agnès Forster.
Oui, j'avais une question, justement, dans le milieu professionnel, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué, cette période justement d'attente, enfin tout ça, ou
non,
c'est resté...
Je me suis organisée, par exemple, parce que donc moi je suis atteinte du syndrome MRKH, qui fait que je n'ai pas d'utérus, que j'ai un cycle ovarien classique avec des ovules, mais je n'ai pas de règles. Donc en fait, quand je me suis lancée dans les GPA, il fallait faire un prélèvement d'ovules, il fallait qu'on trouve mon cycle. Et donc tous les matins, enfin tous les trois jours, il fallait que j'aille à Paris faire une prise de sang. Et donc j'organisais ça en fonction de mon travail. J'y allais avant, j'avais rendez-vous à 7h, on se levait à 5h avec mon conjoint Johan, on prenait le RERC, on allait faire la prise de sang, et puis je travaillais en gain à ce moment-là. On allait prendre un café au café du coin, et puis je partais au travail, et puis il partait au travail. Et puis les rendez-vous avec les États-Unis se faisaient avec le décalage horaire, souvent via Skype. Et du coup, c'était le soir en rentrant du travail à 22h, 23h. Donc, j'ai pas eu. Je me suis d'abord organisée comme ça. Et puis, quand ça devenait concret, quand je savais qu'à un moment donné, il fallait que j'aille chercher mon enfant, là, j'en ai parlé à ce moment-là. Mais même la partie prélèvement pour la création des embryons, on est parti avec mon conjoint pendant les vacances. On s'est dit, en fait, on va utiliser les vacances pour aller faire ça. Donc, ça impacte encore une fois le quotidien. Et puis, et j'en ai parlé une fois que le projet était très concret et qu'on savait que si tout se passait bien, notre fille allait naître bientôt.
Elle allait naître, très bien. Merci à toutes les trois pour vos échanges. Je propose une nouvelle pause et on se retrouve juste après. Économie en direct, et ce matin, j'ai le bonheur d'accueillir Caroline Vigoureux, Julie Fichera et Agnès Forster pour parler d'infertilité, mais aussi d'intelligence émotionnelle. Avec Julie et Caroline, on parle du livre qu'elles ont coécrit. Tout s'est bien passé, merci. Un livre qui, un titre ironique, hein, pour montrer la douleur qu'il y a à vouloir absolument un enfant et les parcours qu'il faut traverser pour arriver à ce résultat. Alors, Caroline et Julie, on en a parlé là un petit peu pendant la pause. C'est vrai que ce mot de douleur revient souvent quand même, même si au bout du compte, il y a eu le bonheur d'avoir, vous avez eu chacune un enfant. Donc, je trouve que ce mot douleur revient souvent quand même.
Bah oui, je pense que dès lors qu'on rentre dans un parcours médicalisé pour avoir un enfant, quel qu'il soit, il y a forcément des moments douloureux parce que ça veut dire que... Bon, déjà, le romantisme qu'il peut y avoir à tomber enceinte de manière naturelle, juste en faisant l'amour, tout ça n'existe plus.
On l'oublie, oui.
Bon, voilà, et puis après, on a toutes les deux connu des choses assez douloureuses pendant les grossesses respectives. Donc moi, j'ai vu que j'ai fait une simulation ovarienne, en fait, on s'est rendu compte que j'étais enceinte de jumeaux, ce qui était une très bonne nouvelle pour nous à la base, parce qu'on se disait que, vu qu'on avait du mal à avoir des enfants et qu'a priori on voulait deux enfants, on s'est dit, on fait d'une pierre deux coups et on aura des jumeaux. Et puis, en fait, on s'est rendu compte à l'échographie des 3 mois que l'un des deux avait de graves malformations. Et on a dû faire ce qu'on appelle une IMG, qui est donc une interruption médicale de grossesse, qu'on a fait sur l'un des deux jumeaux. Donc, pour moi, ça a évidemment été beaucoup d'angoisse, de souffrance, parce qu'en plus, il y a un risque de fausse couche pour l'autre.
Absolument.
Enfin, bref, c'était un moment, je dois dire, assez horrible de ma vie. Et puis, donc, on a fait cette interruption médicale. Donc, j'avais des sentiments très ambivalents parce que, à la fois, je dois faire le deuil d'un bébé tout en emportant un autre. Je me suis dit, mais dans quelle situation de sa vie on ressent à la fois des choses aussi extrêmes, le bonheur d'être enceinte, le deuil d'un enfant. J'étais assez perdue, je pense,
oui,
dans mes
émotions. Psychologiquement, ouais. Et donc, à ce moment-là, est-ce que vous êtes fait aider psychologiquement?
Précisément à ce moment-là, oui, parce que j'étais à la maternité de Port-Royal, où il y a beaucoup de cas compliqués. Et donc, ils m'ont proposé de voir une psychologue que j'ai vue, je pense, deux, trois fois précisément à ce moment-là. Je suis sûre que ça peut être absolument formidable, un accompagnement psy, mais ça n'a pas été le cas pour moi, parce que je pense que j'étais dans un moment de souffrance telle que j'avais aucun recul et que c'était trop. Ouais, et
malgré les...
C'était pas le bon moment, je pense. Et on a arrêté au bout de 2-3 séances. Et puis, j'avais peur que la peine de perdre mon bébé l'emporte et que je sois jamais heureuse enceinte. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, la joie de porter mon enfant a pris le dessus sur le reste.
Agnès, je m'adresse à vous en tant que coach en intelligence émotionnelle. Est-ce que le témoignage de Caroline disant que elle a pas pu, enfin que ses séances ne lui ont rien apporté, vous l'expliquez comment? Vous.
Alors moi je suis pas psychologue déjà.
Ah oui, vous êtes pas psychologue, pardon. Oui, oui,
je
vous êtes coach.
Je suis que coach. Oui. Non, je plaisante. Mais c'est tout à fait compréhensible parce que quand on est aussi intensément dans cette émotion, peut-être qu'on n'a pas envie effectivement et on n'arrive pas à avoir la réception de ce qui se passe en face de cette écoute et que dans la mesure où manifestement le couple était très soudé, qu'il y a beaucoup d'entourage très fort autour. C'était pas un besoin, ou c'était bien d'avoir essayé
ça.
De
oui,
toute
vous
façon,
pensez que c'était
mais c'était
pas...
peut-être pas oui. un besoin oui. absolu. Et dans la mesure où, effectivement, il y a deux émotions, ou plus d'ailleurs, mais au minimum deux émotions qui sont là.
Antagoniste,
il y a la tristesse d'un côté de perdre cet enfant, mais la joie et la rassurance, entre guillemets, d'avoir l'autre qui est là et que ça continue et que ça se passe bien. Donc c'est un phénomène naturel qui fait que petit à petit, ben la tristesse s'estompe pour grâce à la joie qui est en face. Voilà. Peut-être que s'il n'y avait eu que la tristesse de la perte d'un enfant, comme peut-être beaucoup d'autres mamans de l'hôpital, là on est plus dans ce phénomène d'écoute et de pouvoir apprendre à relativiser ou en tout cas exprimer des choses. Voilà. Et je pense que dans la mesure où peut-être vous exprimiez déjà beaucoup de choses avant, le besoin n'était pas indispensable. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle. Les psys, les coachs, etc. On est là pour accompagner,
mais
parfois
personne qui fait elle-même le travail.
Mais
bien sûr.
Et puis parfois ça fonctionne à côté, et tant mieux. L'objectif, c'est le mieux-être de la personne.
Ouais. Vous avez dit quelque chose d'important, Agnès, c'est le fait que le couple était soudé. Et je crois que dans ce genre d'épreuve, je crois que c'était votre cas aussi, Julie. Avoir la chance d'un entourage bienveillant, c'est énorme.
Ah oui, c'est primordial et je pense qu'on a toutes les beaucoup de chance, que ce soit la famille, les amis et mon conjoint, qui dès le départ, quand on s'est mis ensemble, était au courant parce qu'on était, on se connaissait en fait du lycée, lui et moi. Donc il savait ce que j'avais traversé quand j'avais 16 ans et que j'ai appris que je pouvais pas porter d'enfant. Et donc quand on s'est mis ensemble, il savait aussi dans quoi il s'engageait. Et puis c'est lui-même qui un jour m'a dit « Est-ce que tu as envie d'avoir un enfant avec moi ? J'ai envie qu'on ait un enfant ensemble. » Et avant de dire oui, je lui ai d'abord demandé s'il savait dans quoi il s'engageait parce que dans notre histoire, il suffirait pas d'être deux pour avoir un enfant. Et pour lui, il n'y avait pas de question à se poser. C'était parti.
Ouais, c'est beau. Est-ce que l'une et l'autre, avant d'entamer ces parcours de PMA et de GPA, est-ce que vous avez pensé à adopter un enfant d'une
Alors,
Julie Fischer.
Donc nous oui, parce que donc à la différence de Caroline, c'est que moi j'ai grandi avec mon infertilité, et donc je me suis construite avec avec ça. Donc c'est pas une nouvelle qui est soudainement arrivée ou une attente. Je savais dès le départ que ce serait compliqué. Et ce qui nous a semblé important avec mon conjoint, c'était de pas se lancer cœur perdu aux yeux fermés dans un choix ou juste par l'envie d'avoir ou être guidé que par l'envie d'avoir un enfant. C'était important pour nous de lister toutes les possibilités qui s'offraient à nous. Donc il y avait le fait de pas avoir d'enfant, fallait qu'on en parle et qu'on se prépare peut-être à ce scénario-là. Il y avait adopter, et puis à ce moment-là, il y avait un protocole de recherche autour de la greffe d'utérus en France. Oui. Et donc on s'est aussi renseigné sur ça, et la GPA. Et donc on a listé tout ce qui est toutes les possibilités, et ensuite on a éliminé au fur et à mesure. Donc ne pas avoir d'enfant, c'était pas une option. Adopter, en fait, je pense que moi je me sentais pas assez mature à ce moment-là. J'avais l'impression d'avoir j'avais beaucoup de pression en fait, en me disant déjà cet enfant rencontrer des difficultés dès la naissance, et je savais pas si j'avais
la force. Oui, vous seriez à la hauteur. Erreurs. Oui, je comprends. Ouais. Ah oui.
Et donc je me suis mis beaucoup de pression et je me sentais pas encore assez mature pour accompagner.
Vous vous sentiez pas légitime
peut-être pour, d'accompagner cet enfant. Et puis la greffe d'utérus, on s'est renseigné, mais il s'avère que voilà, ça me faisait peur. Et puis la GPA semblait être la meilleure option. Et ce qui nous ressemblait aussi, je pense.
Oui, écoutez, vous le racontez très bien. Et c'est ce qui fait que, je l'ai dit au départ, votre livre fait vraiment réfléchir sur beaucoup d'idées reçues à ce niveau-là. Et vous, Caroline, vous aviez envisagé d'adopter ?
En fait, on s'est simplement posé la question parce que quand on voit qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, je pense que c'est propre à beaucoup de couples. On imagine souvent le pire. Mmh. Et c'est ça qui est difficile dans ces parcours qui sont longs. C'est de se dire que le pire n'est jamais certain et qu'il faut arrêter d'imaginer le pire et que ça peut aussi bien se passer, même si on n'en a jamais la garantie avant que ça soit fait. Mmh. Quand on nous a dit que mon compagnon avait un problème de mobilité des spermatozoïdes, on savait rien de l'ampleur du problème. Et donc, avant le rendez-vous avec le gynécologue qui nous a expliqué, on a eu quelques jours d'attente durant lesquels, forcément, on s'est posé la question. Et si ça nous empêchait d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'on ferait ? Donc, on s'est posé cette question, mais assez brièvement, quelques jours à peine. Moi, je l'envisageais assez peu. Enfin, j'étais un peu comme
c'était pas votre... Vous n'étiez pas dans cette disposition d'esprit.
Non. Enfin, en tout cas, j'attendais de voir déjà si c'était possible. Et ce qu'on dit dans le livre, c'est peut-être égoïste ou narcissique, mais j'avais vraiment envie de porter mon enfant, de voir un enfant, de chercher les ressemblances. C'était quelque chose de très important pour moi. Et donc, j'attendais d'abord de voir si cette possibilité-là m'était permise.
C'est important ce que vous venez de dire à propos de l'égoïsme, parce que je crois comprendre que c'est un sentiment qui revient beaucoup dans les, je pense notamment aux mamans qui veulent être maman solo, comme on dit. Il y a ce sentiment de est-ce que c'est pas égoïste ce que je suis en train de faire.
Quand on a des difficultés à avoir un enfant, on a le temps de réfléchir et de se questionner, donc de questionner son désir d'enfant et d'où il vient et pourquoi il est irrépressible. Parce que c'est vrai qu'après tout, on se dit, mais enfin, encore beaucoup plus dans le cas de Julie que dans le mien, mais pourquoi je suis prête à faire tout ça pour avoir un enfant ? Donc, je pense qu'on s'est toutes les deux questionnées sur, mais est-ce que c'est quelque chose d'égoïste de vouloir un enfant ? Pourquoi j'en veux un ? Je suis pas sûre qu'on ait la réponse aujourd'hui à ces questions, mais je sais que dans nos deux cas, c'est des questionnements qu'on a eu le temps d'avoir et qu'on n'a peut-être pas quand on tombe enceinte comme ça naturellement et rapidement. On est moins sur des discussions philosophiques et éthiques avec nous-mêmes.
Agnès Forster, ce sentiment d'égoïsme, vous le rencontrez souvent aussi. Enfin, cette notion de, vous avez parlé de la culpabilité. Mm. Est-ce que vos patients, vos clients, vous parlent comme ça d'égoïsme?
Alors, c'est rare qu'ils en parlent,
oui.
Mais ça peut être ressenti, tout à fait. Mm. Parce qu'effectivement, encore une fois, l'idée de ce que la société nous a appris, de notre éducation...
Le regard
fait
des
que,
autres.
Voilà, on mm. est au travers du regard des autres, peut-être du manque de dialogue et de communication. Pas dans votre cas, manifestement, étant donné, effectivement, tout ce travail que vous avez fait en couple, ensemble ou en famille, ou même entre vous, sur le soutien que vous aviez l'une pour l'autre. Mais bien souvent, oui. Et c'est vrai que, et notamment, peut-être même des couples qui ne veulent pas d'enfants, aujourd'hui, dans notre société occidentale, c'est immédiatement culpabilité,
ah oui.
égoïsme,
ah oui.
Oui. Incompréhension, voilà. Donc, ce sont vraiment des sujets presque dont soit ils revendiquent, mmh. ils en parlent très fort, soit au contraire, ces personnes-là restent un peu... voilà.
C'est
donc,
occulté.
Oui, il y a cette ouais. notion d'égoïsme parce que oui, on a envie de donner, on a envie de partager, mmh. on a des envies, et on se dit, mais est-ce que... Il y avait des notions de légitimité aussi. Tout ça rentre en jeu, quoi, effectivement. Mmh, ouais, mmh, donc, mais c'était très intéressant de voir, effectivement, à quel point, tout de suite, on part dans du négatif, dans l'idée de « ça ne va pas marcher, ça ne va pas,
oui,
ça va pas fonctionner
ouais, ». Ouais.
Et d'arriver, d'avoir vraiment travaillé là-dessus, d'être revenu et de remettre du positif. Ça, c'est mmh. vraiment le travail qu'on fait beaucoup en coaching. Dans mon esprit, excusez-moi, c'est moindre par rapport à ce que vous avez vécu, mais quelqu'un qui voudrait changer de parcours professionnel, qui voudrait changer de vie, etc., a toujours du mal et voit toujours le négatif. Et mmh. donc, tous ces freins et toutes ces croyances que l'on a qui partent toujours dans le négatif. Et le travail du coaching, c'est justement de relativiser, de remettre du positif et d'aller retravailler
de
ça.
De faire basculer le... Ouais, ouais.
Basculer, voilà. Et donc, c'est vraiment tout ce parcours-là qui est important et qui permet aussi d'avoir cette dynamique. Et...
Mais je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais angoissée à l'idée de jamais avoir d'enfants, j'écoutais mmh. beaucoup de podcasts sur les sentiments et sur la notion d'angoisse.
Oui.
Et qui était finalement défini comme le fait d'accorder du crédit et de l'énergie au scénario du pire.
Ah oui.
Et en fait, on se dit que ce crédit et cette énergie, on peut aussi l'accorder à d'autres scénarios.
Absolument.
Et donc, je me forçais à éviter toutes les phrases qui, dans ma tête, commençaient par « et si, et si, et si ». Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'être dans la fiction de ce qui peut nous arriver. Mmh. Et c'est ce qui est dur dans ces parcours-là, c'est de rester là où on en est à l'instant T et de ne pas imaginer tout ce qui peut se passer après.
Mais en même temps, c'est une manière aussi de...
Julie Fichera.
De se protéger en imaginant... Enfin, oui. J'ai l'impression qu'on imagine le pire pour se dire...
Oui,
bon,
c'est vrai.
Au moins, je serais prête à l'affronter s'il est là. Et je trouve que c'est aussi
raison.
Ça. Et c'est
ouais.
difficile de se raisonner dans ces moments-là mmh. parce qu'on veut se préparer... on préfère se préparer au pire qu'au meilleur.
Oui. Et à côté de ça, par contre, alors moi, je viens à l'envers de ça, c'est que le « et si », il est extrêmement important et intéressant dans le positif.
Oui.
Parce que c'est ça qui va peut-être redonner de l'énergie, redonner de la motivation. Quand on travaille en coaching, on va travailler sur la situation désirée et on va aller vraiment la créer, l'imaginer, la fabriquer au niveau du travail que je fais en PNL. Et ça donne la motivation, ça redonne la flamme, ça redonne l'envie aussi. Mais c'est vrai que la bascule, elle n'est pas simple et elle n'est pas naturelle parce qu'on n'a pas été éduqué encore une fois comme ça.
De cette façon.
On a été éduqué à tout ce qui est négatif dans ce qu'on a pu faire, dans notre enfance, dans nos attitudes et non pas justement ce côté positif. Et apprendre à aller chercher le positif, c'est extrêmement intéressant et important pour mieux avancer, quoi. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez la sensation l'une et l'autre que votre relation à vos enfants ou à votre enfant, enfin chacune, a grandi et a mûri et a été et d'autant plus forte que vous avez justement parcouru ce temps,
toutes ces épreuves, oui.
Alors, moi, ça a été beaucoup, beaucoup de questions. Pendant longtemps, je me suis pas sentie légitime d'être mère, même après la naissance de ma fille.
Ah oui.
J'ai eu du mal à me réaliser maman, à me dire oui, ça y est, je suis maman après tout ce parcours. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais j'ai tellement intellectualisé le propos et le sujet que, en fait, du jour au lendemain, j'avais l'impression de devenir, de devoir devenir mère et ça a été compliqué pour moi. Donc, oui, maintenant, ma fille, elle a 3 ans et je pense que la relation ne fait que grandir et j'apprends à ne pas trop me poser de questions et à me dire que son histoire n'est pas que mon histoire et son histoire n'est pas que sa naissance, elle est aussi ses 3 années de vie pour elle et comment est-ce qu'on se construit. Donc moi, je pense que après, c'est la relation qu'on tisse avec nos enfants, c'est tellement intime que notre histoire rejaillit forcément sur la leur. Donc oui, je pense que ça a un impact sur comment je me comporte avec elle, à mon avis.
Caroline, vous voulez répondre à cette question d'Agnès ?
Je dirais pour le coup que c'est très différent de Julie, puisque j'ai eu la chance de pouvoir...
Parlez bien en face du micro.
J'ai eu la chance de pouvoir être enceinte et donc j'ai pu me préparer au fait de devenir mère pendant ces 9 mois qui, au-delà de la vie in utero, pour la femme qui porte l'enfant sont quand même importants psychologiquement et c'est des étapes que Julie a pas pu avoir. Donc c'est ce qu'on raconte dans le livre, qu'elle est devenue mère du jour au lendemain, le jour où elle a rencontré Rose, alors que moi j'ai eu le sentiment de le devenir durant ces 9 mois. Donc après...
Alors, excusez-moi, oui, je vous coupe, mais oui et non, parce que quand on suit le parcours de Julie, qui suit finalement aussi la grossesse de la femme porteuse, on sent que vous êtes complètement en osmose et que finalement, quelque part... Enfin, c'est comme si vous étiez enceinte. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti.
Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout. Je l'ai pas vécu comme ça.
Ah oui.
Non, moi j'ai. Alors effectivement, on était en osmose. Enfin, en tout cas, c'était des échanges quotidiens avec elle via WhatsApp. Mais en fait, moi, mon quotidien, il restait inchangé. C'est-à-dire même aux yeux des gens. En fait, si on ne connaît pas, personne ne sait que j'allais devenir maman. Et je pense que ce que Caroline essayait de dire, c'est que quelque part, quand on est enceinte, la société vous accompagne à devenir mère par juste des petits gestes symboliques, le congé maternité ou les gens, vous êtes enceinte depuis combien de temps en fait, on se construit, c'est pas pour ça que c'est plus simple, hein, mais en tout cas, on se construit à devenir mère avec la société, avec tout. Et en fait, moi, mon quotidien, il était à changer. Je continuais avec modération, mais à boire un peu d'alcool, à manger de la viande crue, du poisson cru. Enfin, moi, mon quotidien n'a pas changé. Et effectivement, c'est juste que du jour au lendemain, tout d'un coup, cet enfant est arrivé dans mes bras et c'est comme s'il tombait du ciel tout d'un coup.
Oui, c'est pas ce que j'ai ressenti parce que, en tout cas, peut-être physiquement, mais intellectuellement, j'avais vraiment le sentiment que, voilà, vous sentiez, vous suiviez ça tellement au jour le jour, quoi.
Oui, c'est vrai, mais peut-être que j'ai trop réfléchi, je pense, pendant tout ce parcours et que je me suis peut-être pas laissée porter par mes émotions, ce qu'on dit aussi et ce qu'on a essayé de faire après. Je pense que c'est comme s'il y avait un objectif et en fait, et tout était aussi dématérialisé. Enfin, c'est des échanges de mails interminables avec les États-Unis. Tout passe par juste par le téléphone. Enfin, il y a quelque chose d'impalpable. Il y avait quelque chose d'impalpable dans tout ça.
Je pense qu'il y a un manque d'énergie, excusez-moi, de partage d'énergie, effectivement, surtout dans la mesure où finalement la mère porteuse est à l'autre bout du monde. Donc il y a eu, je suppose, aucun contact et aucune rencontre avant.
Non, juste avant. Nous, on a, en fait, dans ce parcours compliqué, on a eu de la chance. Enfin, on a quand même un parcours parfait dans cette. On a eu beaucoup de chance dans ce parcours compliqué. Tout a marché du premier coup. Faut quand même le dire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et on a même eu la chance que la grossesse se fasse à terme et qu'elle soit pas née avant qu'on arrive. Donc, en fait, on a pu rencontrer quand même. Samantha juste avant qu'elle accouche, donc la voir enceinte et Et, mais effectivement, par contre, il s'est passé...
C'était au dernier moment.
Ouais. C'était au dernier moment.
C'est ça, ouais. Bien sûr.
On fait encore une pause. Je vous l'aurais compris, on pourrait en parler des heures de ce livre. Mais on va faire une pause et puis parler peut-être de votre de la relation privilégiée que vous avez eue avec vos médecins l'une et l'autre. À tout de suite.
Leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be.
D'être resté avec nous, c'est l'économie en direct sur EDFM Radio. Ce matin, un sujet sur l'infertilité et l'intelligence émotionnelle avec Caroline Vigoureux et Julie Fichera, co-auteurs du livre « Tout s'est bien passé, merci » aux éditions Fayard, et Agnès Forster, coach consultante et coach professionnelle. Alors, on revient encore pendant quelques minutes avant de donner la parole à Agnès plus longuement, Caroline et Julie. Vos parcours, alors, il y a trois choses que je voudrais, dont je voudrais parler avant qu'on se quitte. Déjà, la GPA, c'est quelque chose qui coûte très cher, mmh. Julie, et vous avez dû faire un emprunt. pour pouvoir arriver au bout de votre rêve.
Oui, effectivement, je ne sais plus, mais il faut compter environ 100 000 euros et plus, tout compris les logements, l'avion, enfin nous concernant. Donc c'est le projet d'une vie, sachant que on gagnait pas des salaires. On avait un salaire en dessous de 2000 euros, lui et moi, donc c'était pas énorme. On a été énormément accompagnés par nos familles, nos amis, qui ont fait une cagnotte surprise. Et puis nous, toutes nos économies sur nos PEL, toutes nos économies d'enfance.
Ouais, tout y est passé.
Tout y est passé. Et puis pour finaliser la somme, on a dû prendre un emprunt à la banque. On a dû faire le tour des banques pour trouver le reste de la somme. Là, ça n'a pas été facile. On a pris le parti pris de dire ce pourquoi on cherchait de l'argent.
Oui. Vous avez rien caché.
Non. Mm-hmm. Là, on était d'accord, lui et moi, en disant on va pas commencer à se créer des problèmes. Enfin, on va faire simple. Soit les gens ils veulent nous aider, soit ils veulent pas, et tant pis. Une première banque, une dame qui avait notre âge, qui faisait une PMA et donc qui s'est sentie tout de suite concernée, qui nous a dit oui, je vous aiderai. Et puis en fait, elle a été arrêtée parce que elle est tombée enceinte et c'était une, donc tant mieux pour elle. Et voilà. Et puis ensuite, une autre banque où la personne était effrayée, elle nous a proposé une assurance vie et voilà. Et puis après, un ami d'amis qui connaissait un banquier, bref, on nous a rencontrés chez lui et lui a dit ok, moi je vous accompagne.
Ouais, bah, super. Oui, alors Caroline, vous avez mis le doigt sur le coût de ce que coûte une GPA, dans la mesure où, comme vous avez vécu le même soins que Julie, vous, ça ne vous a rien coûté.
Voilà, c'est alors ce qu'on trouvait intéressant dans le fait de mettre en parallèle nos histoires, c'est que moi j'ai eu recours à une PMA et dès lors qu'on rentre dans un parcours PMA, tout est gratuit. Alors c'est pas gratuit, mais en tout cas pour nous ça l'est. Et donc moi je n'ai jamais su combien notre parcours avait coûté. Et c'est grâce à Julie, puisqu'on a toutes les deux fait de la stimulation ovarienne, donc avec des piqûres qu'on doit aller acheter en pharmacie. Moi quand j'y suis allée, j'ai sorti ma carte vitale et on m'a donné les piqûres. Et vu que Julie était dans aucun parcours légal en France, elle a payé 2000 euros au comptoir de la pharmacie pour ces mêmes piqûres. Et c'est vrai que ça nous a aussi questionnés parce que il y avait, enfin moi je l'ai ressenti comme une injustice où je me suis dit moi dans mon désir d'enfant je suis accompagnée et totalement aidée financièrement alors que Julie a tout à faire elle-même, et en quoi mon désir d'enfant est plus légitime que le sien. Voilà, ça nous posait ces questions là.
Je voudrais revenir, alors on va en parler rapidement si vous le voulez bien, mais que ces parcours ont été possibles grâce à une relation privilégiée avec des médecins bienveillants, dans votre cas Julie.
Oui, effectivement, donc quand j'avais 16 ans et que j'ai appris que je pourrais pas porter d'enfant, on m'a conseillé un médecin spécialisé qui m'a accompagnée qui m'a fait grandir, en fait, avec j'ai grandi, et quelqu'un qui a dédié sa vie à cette question-là. Effectivement, c'est important dans ces parcours-là de. Après, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi, on rencontre des médecins
qui sont plus insensibles, enfin plus blasés.
Oui, qui ont moins le temps, peut-être, qui prennent moins le temps. Et en tout cas, j'ai eu la chance que. Au départ, d'être accompagnée par ce monsieur qui a su mettre les mots, qui a su expliquer clairement, qui a su être là, et à la fois avoir un vrai rôle de médecin éducatif et à la fois un rôle, sensible aussi.
Oui. Dans votre cas, Julie, je trouve que donc c'est vrai que vous avez cette malformation qui vous empêche d'avoir un bébé naturellement, mais j'ai le sentiment quand même que les étoiles se sont bien alignées. Et je voudrais revenir sur cette anecdote du policier à l'aéroport qui a fait que vous avez pu partir alors que c'était pas évident.
Oui, c'était... Non, c'est vrai que je rappelle, je redis, parce qu'on a eu de la chance quand même, tout s'est bien passé dans ce parcours compliqué, tout s'est très bien passé. Et donc, en fait, c'était en période de Covid, donc les frontières étaient fermées et on avait une impossibilité de quitter le territoire alors que notre fille allait naître très prochainement. Et en fait, on n'avait pas de réponse de droit de partir, mais nous, on a pris le parti pris, on a notre billet d'avion, on essaye d'aller à l'aéroport et on essaye de partir.
Oui, parce qu'il fallait que vous rachetiez le billet.
Bah, sinon,
c'était horrible.
On perdait encore de l'argent. Était dans un... Et en fait, on arrive à l'aéroport, on passe la douane sans problème, on enregistre nos bagages et au moment de rentrer dans l'avion, on nous dit « Ah bah non, en fait, vous n'allez pas pouvoir monter dans l'avion, vous allez devoir rester là ». Et là, on explique, on a un dossier, on a écrit en l'ambassade, on nous dit oui, vous avez tous les papiers, mais vous n'avez pas le papier qui dit que c'est bon. Donc, vous ne pouvez pas monter dans l'avion, vous devez rester là. Donc, mon conjoint se met extrêmement en colère. Moi, j'essaye de garder mon calme en me disant il faut que le dialogue soit là, sinon on a un objectif,
on
c'est
va
de partir.
Tout perdre.
Et puis, un policier américain qui est là et qui nous dit, écoutez, moi, je vais vous aider. Dites à votre conjoint de se calmer, de partir. Et moi, je vais discuter avec vous. Je discute avec lui. Et puis, il me dit, vous rentrez chez vous, vous m'envoyez tous vos papiers. Et vous reprenez un billet. Et je vous assure que vous allez pouvoir partir. Et c'est ce qui s'est passé. On a repris un billet. Je lui ai envoyé tous les papiers. Et puis, dans les deux heures, il nous envoie une autorisation comme qu'on avait le droit de quitter le territoire. Deux jours après ou trois, je ne sais plus combien de temps après maintenant, mais on a pu quitter le territoire et prendre l'avion. Et notre enfant n'était pas né, donc on a eu de la chance.
Très bien. Bon, on arrive à la fin de ce témoignage. Donc, vos enfants sont bien nés, tout va bien. Vous, Julie, la transcription de l'état civil, elle n'a posé aucun problème?
Non, tout s'est fait en toute simplicité. La transcription s'est faite totalement avec le nom du père, le nom de mon nom. Et puis, on a un livret de famille. Tout va bien. La nationalité française. Enfin, du coup, elle a la double nationalité. Elle est franco-américaine.
Et donc, votre petite Rose aujourd'hui, puisque c'est Rose, elle a 3 ans.
Elle a 3 ans et demi. Elle va très bien. Elle est épanouie. Elle est drôle.
Écoutez, toutes nos félicitations pour ce beau bébé. Vous, Caroline, alors entre-temps, vous avez eu un autre enfant.
Oui, en fait.
La fertilité s'est envolée.
On devait faire une deuxième PMA parce qu'on voulait un deuxième enfant. Et il se trouve que j'ai appris que j'étais enceinte 5 jours avant notre rendez-vous pour faire une PMA. Donc, c'est arrivé naturellement, assez miraculeusement pour nous. On n'a pas trop compris sur le moment. Puis moi, ça m'a posé beaucoup de questions par rapport au livre parce que je me sentais illégitime à parler d'infertilité tout en étant tombée enceinte naturellement. Et puis, en fait, je me suis dit que les histoires d'infertilité étaient parfois ponctuées d'histoires de fertilité. Mmh. Et c'est ce qui rendait tout ça à la fois magique, grandiose, c'est que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans un sens comme dans un autre. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi magique quand ça arrive.
Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, en tout cas, merci infiniment à toutes les deux, Caroline Vigoureux et Julie Fichera, co-autrice de Tout s'est bien passé. Merci pour ce livre je recommande encore et encore.
Merci.
Même si on n'est pas dans l'infertilité, en fait. Hein, c'est un très, très beau témoignage. Merci à vous.
Merci.
On marque une nouvelle pause et puis on retrouve Agnès Forster juste après.
C'est la fin du sablier. Je reviendrai pas deux fois. Je serai plus le même, c'est terminé. Et pourtant t'avais le choix. C'est la fin du sablier. Je veux plus parler de toi, je veux plus parler de toi, je veux plus parler de toi. Oh, t'en faut pas la peine, t'en faut pas la peine, t'en faut pas la peine.
Je t'ai dit ton palave de moi, je te l'ai dit plusieurs fois. Tu me dis t'inquiète mais j'y crois pas. Ça se voit, ça se ressent quand j'entends juste le son de ta voix. T'es trop tout, 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 tout avec moi. Tout fou, fou, fou quand tu me vois. Mais vas-y tout, tout, tout avec moi. Dans ma tête c'est flou.
Tu n'as
que de la gueule. Être mal accompagné, non, je préfère rester seul. Faut que l'amour il est mort, j'emporte le deuil. Pas de retour en arrière, girl, c'est ça le thème. Fuck you, girl, dem, ou caca, et trop girl, dem. Un des cabas trop importance, girl. Impeccable, bon chance, girl.
Tu reviendras pas deux fois, tu seras plus le même, c'est terminé. Mais non, j'avais pas le choix. Y'a pas d'histoire de s'habiller. J'sais que tu parles de moi, tu parles de moi, tu parles de moi. Mais si j'en vaux pas la peine, j'en vaux pas la peine, n'est pas la haine.
Tu l'ouvres un peu beaucoup, tu n'as que de la gueule. Être mal accompagné, non, j'préfère rester seul. Faut que l'amour il est mort, j'emporte le deuil. Pas de retour en arrière,
je reviendrai pas de moi.
Tu
reviendras pas de
moi. Plus le même, c'est terminé. Et pourtant t'as fait le choix. C'est la fin du sablier. Je veux plus parler de toi, je veux plus parler de toi, je veux plus parler de toi.
Oh. Mais si j'en vaux pas la peine, j'en vaux pas la peine, n'est pas la haine. Oh, oh, oh.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct et ce matin, nous avons parlé longuement d'infertilité, mais aussi nous allons parler plus longuement d'intelligence émotionnelle. Et je suis toujours en compagnie de Caroline Vigoureux et Julie Fichera, co-auteurs du livre « Tout s'est bien passé, merci » aux éditions Fayard, et Agnès Forster, coach consultante et coach professionnelle. Alors Agnès, focus sur vous maintenant. Est-ce que vous avez toujours exercé cette activité de coach, Agnès ?
Absolument pas.
Non, non, racontez-nous. Non.
C'est un long parcours mystérieux.
Oui, c'est vrai.
Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai eu un parcours professionnel très divers, on va dire. Des dizaines de métiers différents. J'ai beaucoup appris sur le terrain. Et puis, au fil du temps, le parcours a fait que j'ai eu 3 enfants assez proches. Et donc, j'ai arrêté ma carrière. J'ai travaillé dans la publicité, dans la communication. Et s'arrêter pendant plus de 4 ans pour élever ses enfants dans ces métiers-là,
oui,
à l'époque.
Il
y a eu un tel gap et toute la technologie qui est arrivée, etc. Puis avec 3 enfants à la maison et un mari en déplacement très fréquemment. C'est vrai que j'ai fait le choix d'arrêter ma carrière professionnelle. Et quand j'ai repris, c'était plus du tout d'actualité de repartir dans ces métiers-là. Et le hasard a fait que j'ai trouvé un poste dans la fonction publique, près de chez moi. Donc, c'était vraiment le côté très matérialiste qui prônait
pratique.
Pratico-pratique aussi, effectivement. Et donc, j'ai redémarré ma vie dans la fonction publique. Je suis rentrée par la petite porte et je suis montée petit à petit à plus de responsabilités. Et en une quinzaine d'années, en fait, j'ai fini comme responsable adjointe dans des équipements sportifs. Où je travaillais avec une quarantaine de personnes dans 3 équipements avec des horaires de 7h à minuit, 7 jours sur 7, donc horaires décalés, avec des 5-6 métiers différents entre maître-nageur, technicien, travailler avec le public, les événements, les compétitions, etc. Donc énormément de choses à driver,
à gérer.
Plus les 3 loulous à la maison. Donc petit à petit, j'étais confrontée moi-même justement à cette... ce statut de maman professionnelle,
la charge
charge mentale, l'organisation, la gestion du temps et la priorisation. Et finalement, tout ça je me suis occupée de moi, quoi, en gros.
À un moment donné, oui, vous avez dit stop.
C'est ça. Et donc, j'ai découvert ça, j'ai travaillé là-dessus pour moi. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose qui est important, qui est intéressant. Et voilà. Et le parcours a fait que j'ai découvert le coaching. Je me suis fait accompagner. Je trouvais ça très intéressant et puis j'ai fait un parallèle. Je me suis dit, je vais me former à ça. Ça va me permettre peut-être d'apporter quelque chose de différent professionnellement. Mais j'avais aucune idée de ce que je voulais en faire. C'est vrai qu'à la base,
mon
mémoire peut en témoigner. J'ai vraiment parlé de comment intégrer le coaching dans la fonction publique territoriale. Donc, j'étais vraiment pas du tout dans l'idée de me lancer. Voilà. Puis l'idée a fait son chemin. J'avais perdu un peu de sens aussi au niveau de ce que je pouvais apporter au niveau de la fonction publique. Et donc, il y a un an et demi, alors j'ai créé ma société il y a 3 ans, mais il y a un an et demi, j'ai décidé donc de tout lâcher. lâcher, de me lancer dans, dans cette belle d'accord, aventure.
D'accord. Voilà. Et vous donc, ne le regrettez pas?
Donc je, non, pas du tout. Pas du tout. Ah, il y a des hauts et des bas, c'est sûr.
C'est sûr,
voilà.
Oui. Ouais,
et donc
ouais.
Voilà, je me présente comme une jeune entrepreneuse de 58 ans.
Voilà. Et donc, alors expliquez-nous, donc vous êtes certifiée RNCP, praticienne PNL, peut-être une explication rapide là-dessus.
Alors, le RNCP, c'est par rapport au, à la certification de coaching et coaching professionnel, donc coaching en entreprise. Hein. Donc, ce sont effectivement des certifications reconnues nationalement. Et la partie praticienne PNL, alors ça, ce sont deux Américains qui ont lancé, qui ont créé cette... cette appellation de programmation neurolinguistique. Et il y a différents niveaux d'apprentissage. Et effectivement, praticien, ben c'est une technique. Alors, c'est à la fois une technique d'approche qui peut enrichir énormément le coaching ou alors une technique d'approche qui peut être prise à 100% exclusivement en PNL. Et notamment, on peut travailler sur des phobies, par exemple, d'accord, de façon très, très rapide.
Ah, oui.
Voilà, programmation neurolinguistique, c'est qu'on on ne programme pas les gens. Mais en fait, on prend en compte le fait que, et justement, on en a parlé un petit peu aussi, on a été programmé dans notre vie, dans notre éducation, dans notre environnement. Notre cerveau a été programmé. On a un cerveau reptilien qui est programmé à sursauter dès qu'on entend un bruit pour se protéger. Mais on a aussi un cerveau intelligent qui veut remettre...
Qui veut prendre le dessus.
Prendre le dessus et faire d'autres choses. Mais ce cerveau instinctif reptilien, on n'arrive pas à le maîtriser, en fait.
Ah oui.
On a beau se dire, mais c'est ridicule d'avoir peur d'une araignée. Quand on a une araignée devant soi et qu'on est... Et qu'on a cette phobie des araignées, on sursaute, on transpire, on devient tout blanc et on a le cœur qui bat. Et c'est ça, cette programmation.
Et vous arrivez à faire que ces gens, n'aient plus vos patients n'aient plus cette phobie.
Et oui.
Ah là, c'est formidable.
Absolument.
Il faut que je vienne vous voir, parce que moi, j'ai la phobie des serpents. C'est horrible.
Tout à fait, voilà. Donc, on ne va pas travailler sur le raisonnement, mais justement, on va travailler sur ces sensations que l'on a. Cette réaction physique. Et là aussi, dans mon esprit, je faisais le parallèle entre le fait que le mental et le physique sont extrêmement liés. Et si le mental bloque, le physique peut bloquer. Donc je reviens à l'idée de ne pas réussir à tomber enceinte, à se croire fertile et finalement ne plus l'être. Parce que oui, il y a un relâchement mental, il y a un lâcher-prise qui fait que l'un va connecter avec l'autre. Et voilà, et on est dans cette même, un parallèle un peu à ça, parce qu'effectivement, le travail d'accompagnement en PNL, ça va être d'aller provoquer ce lâcher-prise au travers des sensations que l'on a pour aller mettre d'autres sensations et remplacer ou diminuer ce cœur qui bat, cette transpiration, ces fourmillements et cette réaction physique, parce que c'est même physiologique finalement. Parce que ce qui se passe, c'est que à l'époque de l'homme préhistorique, c'était une réaction de survie.
Oui, oui.
Et ces réactions physiologiques permettent au cœur de démarrer et donc de pouvoir fuir. Et donc mettre tout le sang vers les organes vitaux essentiels pour partir en fuyant et se protéger. Voilà. Et on a gardé ça. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme
fou,
ça que ça fonctionne,
c'est
en tout cas.
On est
encore marqué par ça. Et ce qui fait qu'effectivement, un coup de klaxon dans la rue va vous donner ces mêmes réactions que si vous aviez été face à un mammouth à
un
je ne sais quoi à l'époque.
un T-Rex.
Voilà. C'est très vulgarisé comme présentation, l'idée.
Non, c'est passionnant.
Voilà l'idée. Donc oui, au travers de ça, au travers de cette pratique de la PNL, on peut effectivement diminuer énormément et très rapidement cette réaction. Et pour l'anecdote, effectivement, lorsque j'ai fait cette formation, il y avait une personne qui était vraiment extrêmement phobique des araignées et qui faisait des cauchemars, qui, en nous le racontant, pleurait en fait. Des cauchemars qu'elle vivait, etc. Et en moins d'une demi-heure, elle a été tout à fait capable de prendre le téléphone, d'aller scroller et de zoomer pour aller regarder des araignées sur son téléphone, alors qu'effectivement, à l'époque, c'était inimaginable. Et il y avait même une petite araignée morte au fond de la salle, et cette araignée a été posée sur son genou. Et
elle apparaît.
Ça allait très bien.
Incroyable.
Voilà.
Incroyable. C'est magique, quoi.
Voilà le. Alors, c'est pas magique. Non, c'est pas magique.
Oui, non, c'est
à la fois neuronal, physiologique, etc.
Donc, on peut parler vraiment de stratégie d'un coach.
Ah oui, bien sûr, oui, complètement. Tout à fait. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le côté très personnel, effectivement, de certaines choses comme ça. Mais ça peut être la phobie de la prise de parole en public.
Oui, ça
peut
c'est être, ça. Voilà, des choses. Donc c'est là où vous intervenez aussi, parce que je crois que vous intervenez dans. Vous êtes à la fois coach de particuliers, mais aussi dans des entreprises.
Oui, disons que je. Alors. J'ai une thématique très professionnelle, effectivement, mais de toute façon, tout coaching professionnel va rentrer aussi dans des thématiques personnelles. Donc, oui, moi, j'ai une approche très, très individualiste sur la notion, justement, des émotions, d'accepter ses émotions, de les entendre. On va travailler notamment là-dessus sur la procrastination, sur s'autoriser à vouloir changer un parcours professionnel, casser les peurs, les phobies, les croyances limitantes pour permettre à la personne de se dégager de cette situation qui ne lui convient pas à un moment précis pour pouvoir avancer vers ce qu'elle voudrait et pouvoir se permettre d'avancer.
Il faut arriver quand même à convaincre le chef d'entreprise, hein, ou c'est pas un problème?
Non, on ne peut pas convaincre un chef d'entreprise. On ne peut pas convaincre un manager de se faire coacher. Si la personne n'est pas prête à le faire et n'a pas envie de le faire, ça ne servira à rien. Voilà. Et puis, de la même façon, si le chef d'entreprise ne comprend pas l'intérêt de ce type d'accompagnement et ce que ça peut apporter, alors on peut l'éduquer, mais je dirais le convaincre me gêne un peu.
Oui, je comprends. Alors, vos besoins, justement, aujourd'hui, c'est d'être mis en relation avec des dirigeants indépendants et puis des managers qui cherchent à développer leur business grâce à la gestion des émotions, le stress, une meilleure cohésion.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut encore continuer à éduquer beaucoup de sphères professionnelles au fait que les résultats, les chiffres, la technologie, c'est bien, mais avant tout, il y a de l'humain.
Il n'y a pas que ça.
Et que en améliorant la qualité humaine, on améliore. Ça peut être la cohésion d'équipe et donc améliorer les résultats d'une entreprise. Bien sûr que la finalité va être un objectif de meilleure rentabilité ou de plus de productivité, etc. Mais dans le bon sens du... Enfin, moi, j'ai envie de l'aborder dans le bon sens du terme, en tout cas. Être productif, c'est une chose, mais être productif en étant bien dans sa peau, en étant organisé, concentré, et en sachant aussi lâcher prise, se poser et ne pas être dans un stress et dans une
permanent,
toujours plus permanent. Voilà. Et nombre de personnes qui se retrouvent aujourd'hui en limite de burn-out ou tellement stressés, effectivement, dans leur vie, et peuvent diminuer ça et retrouver un équilibre.
En vous rencontrant, en fait. Oui,
c'est ça. Ouais.
Donc, vos clients, qui sont-ils aujourd'hui?
Alors, des entrepreneurs indépendants qui se sont lancés et qui ont besoin, justement, de se rassurer, de casser ses freins et de trouver peut-être une posture plus professionnelle et avancée dans leur projet. Et puis des managers et des dirigeants qui ont besoin à un moment particulier d'aller travailler sur quelque chose, de se poser, de prendre du recul et de la hauteur. C'est vraiment c'est très compliqué aujourd'hui. Le rythme de vie que l'on a, on est sans arrêt pressé, stressé, avec toujours plus de choses à faire. Et ce sont des moments qui sont importants pour justement prendre de la hauteur. Avoir une vision différente et revenir à l'essence même de leur projet. Ensuite, pouvoir faire avancer soit eux, soit leur équipe, soit leur entreprise. Et puis, retrouver peut-être aussi un équilibre pro-perso qui est parfois un peu oublié.
Un langage très très comment très reposant. Donc, je pense que ça doit fonctionner avec vos chefs d'entreprise.
Oui, après, le principe du coaching, et j'avais quelqu'un au téléphone hier, c'est aussi d'aller poser des questions qui font un peu mal de temps en temps.
Ouais.
Parce que, bien sûr, moi, c'est vrai que j'aborde beaucoup les choses avec douceur, entente, compréhension, etc. Mais parfois, il faut aussi bousculer un petit peu la personne pour
mettre un coup,
pour soulever
un coup
des questions qui dérangent un peu, mais qui vont aider à réfléchir différemment et à avancer, bien sûr.
Agnès, vous avez une actualité à nous, enfin deux actualités à nous proposer, enfin à nous annoncer, pardon.
Oui.
Donc le 12 mars.
Alors en fait, je participe effectivement deux mardis d'affilée à deux salons.
Oui.
Le 12 mars, ce sera à Conflans-Sainte-Honorine. C'est un salon qui a été monté par l'antenne donc de Femmes des Territoires, deux femmes qui sont les animatrices de cette antenne. Femmes des Territoires, c'est un réseau pour les femmes entrepreneurs ou porteurs de projets ou femmes qui se posent des questions sur ce qu'elles veulent faire, effectivement. Et ce salon est toute la journée à la salle des fêtes de 9h à 18h et va aborder énormément de thématiques justement pour ces femmes. On a même des collèges, des collégiens et des collégiennes qui vont venir, hein, parce que c'est ouvert aux D'accord. hommes aussi, même si c'est un très féminin comme comme public et comme participante. On est une quinzaine de personnes à avoir monté ça. Il y aura des ateliers, une table ronde en fin de journée, des stands, des animations. Voilà, c'est ouvert, c'est gratuit. Il y a une inscription qui est demandée quand même. Il reste, le 5 mars, je ne sais pas s'il restera encore des places, mais va en réouvrir quelques-unes parce que ça commence à bien prendre.
Mais écoutez,
on recommande à toutes ces personnes qui auraient peut-être envie de se renseigner, de partager, de rencontrer. Il y a à la fois des indépendantes, mais aussi des institutions qui sont là, hein, qui nous accompagnent.
Et de rejoindre ce groupe, hein, Femmes des Territoires, qui, je crois, fonctionne plutôt bien.
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, qui fonctionne à la fois de façon physique et en distanciel, avec beaucoup d'animation, de partage, d'ateliers et de soutien. Donc ça, c'est essentiel.
Et donc, le deuxième événement, c'est le Salon Effervescence.
J'ai pas besoin de vous en parler, Jacqueline.
Non, j'en parle presque tous les jours maintenant et j'y serai aussi. Enfin, IDFM y sera.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est votre première fois, je crois.
Oui, première fois que j'y serai en tant qu'exposante.
Oui.
En tant que coach, on n'a pas beaucoup de choses à exposer. Mais
oui.
Voilà. Et ravie d'y participer.
Ça va être des belles rencontres.
Oui, bien sûr. Mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, une vraie journée de networking avec. Beaucoup d'entreprises, donc du 95, hein, c'est l'appellation Made in 95.
C'est la marque de fabrique.
C'est ça, la marque de fabrique.
Voilà, et puis vous avez aussi un programme d'accompagnement individuel.
Hmm?
Donc, trouver sa place, mais place PLA2S. Hein.
Oui, j'ai décliné ça. Oui, parce que je suis partie du principe, en fait, que l'idée, c'est une déclinaison de... travailler sur son positionnement, donc le P du positionnement, avec lucidité, avec audace, et puis pour trouver sa sécurité intellectuelle, et puis pour avancer vers son succès. Voilà, donc
la
déclinaison de se trouver sa place. Voilà, et je propose d'ailleurs le jeudi 14 mars aussi un webinaire, donc à 20h30, qui sera sur l'intitulé, pour l'instant, c'est changer son mindset, mais il faut que je le fasse. Voilà, et c'est vraiment, encore une fois, une présentation de ce qui peut être fait et de ce qui peut intéresser aussi, justement, les personnes pour transformer et oser avancer, justement, sur un projet. Oui. Ouais.
Merci Agnès pour toutes ces précisions. On retiendra toutes ces dates des événements qui se retrouveront sur le podcast. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup.
Et on se retrouve au Salon Effervescence.
Tout à fait. Et puis, donc, le premier salon, je ne l'ai pas nommé, c'est Oser au féminin. J'ai oublié
de le citer. Vous m'avez laissé des flyers. On en reparlera d'ici le 12. On fera un petit rappel avant le 12.
Parfait, super.
Merci à vous. Merci. Voilà, l'émission est terminée. Peut-être quelques secondes pour un mot de conclusion, Caroline, Julie.
Merci à vous pour l'intérêt porté à notre livre. Et
merci de l'avoir écrit.
On a toutes les deux grandi à Enghien. Et
oui,
donc,
c'est vrai.
Et donc, ça avait un sens aussi pour nous de venir témoigner ici.
C'est vrai. Merci.
Ouais, merci Julie. Pour cet échange très agréable.
Merci Julie. Agnès, le mot de la fin est pour vous.
Merci beaucoup. J'étais ravie d'être là, extrêmement intéressée par vos histoires personnelles. Et puis, ce livre va vite intégrer ma bibliothèque. Enfin, non, pas ma bibliothèque, d'ailleurs, ma table de nuit.
Merci, c'est gentil.
Voilà.
Merci à toutes les trois pour vos témoignages. C'était vraiment une belle émission. Merci à vous d'avoir été à notre écoute. Merci Christophe pour la technique. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son intégralité avec le podcast sur IDFM Radio, radioidfm.fr. Et vendredi, nous serons le 8 mars. Donc, rendez-vous de l'économie en direct pour célébrer la journée internationale des droits de la femme avec encore des belles invitées. Donc, je vous dis à très vite. À bientôt.